الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه إلى يوم الدين وبعد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب زدنا علما يا كريم, رب زدنا علما يا كريم, رب زدنا علما يا كريم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. من شيخان الإسلام, nous avons complété ce soir le 17e juz, le 17e sifara, avec le surat al-Anbiya et le surat al-Hajj. Et parmi les versets qu'on a lus ce soir, il y a ce rappel de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala à l'attention des Quraysh, de tous les Arabes, de toute personne. وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّنْ قَبْلِكَ الْخُلْدِ أَفَإِمْ مِتَّ فَهُمُ الْخَالِدُونَ. Et nous n'avons attribué l'immortalité à nul homme avec toi, avant toi. Est-ce que si tu meurs toi, en s'adressant au prophète sallallahu alayhi wa sallam, afa'im mitta, est-ce que si tu meurs toi, ils seront eux éternels? Kullu nafsin dha'iqatul maut, chaque âme donc goûtera la mort. Wa nabluukum bish-sharri wal khayri fitna wa ilayna turja'un. Nous vous éprouverons par le mal et par le bien à titre de tentation, et c'est à nous que vous serez ramenés, vous serez retournés. Dans ce verset donc, Allah Azza wa Jal rappelle aux Quraysh, aux Arabes, à toute l'humanité, que si le meilleur des hommes, An-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, la meilleure des créatures, la personne la plus aimée par Allah subhanahu wa ta'ala, si lui aussi a dû quitter ce dunya, alors personne ne pourra rester éternel. Il n'y a pas une personne qui peut nourrir l'espoir de rester éternellement sur ce dunya. Aucun prophète, même le prophète Isa alayhi salam, qui est certainement le seul être humain à être venu sur ce dunya et qui n'est pas encore mort réellement, le jour avant le Qiyamah, lorsqu'Allah Ta'ala le ramènera, le fera redescendre sur terre avec les signes de la fin des temps, lorsqu'Allah Ta'ala l'enverra pour tuer l'antéchrist al-Masih al-Dajjal, ensuite Isa alayhi salam mourra comme tout être humain. Il aura une mort comme tout être humain. Donc c'est un rappel de la part d'Allah Azza wa Jal. On répète que la meilleure des créatures, bien que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est une des rares personnes qui, avant de mourir, a eu la proposition, le choix de la part d'Allah Azza wa Jal de rester encore sur ce dunya avec tous les bienfaits qu'il peut y avoir, ou alors retourner auprès de son Seigneur, mais il a préféré Ar-Rafiq al-A'la, il a préféré retourner vers Allah subhanahu wa ta'ala. Donc Allah Azza wa Jal rappelle ensuite, message pour toute la race humaine, pour toute l'humanité, que le nafsin dha'iqatul maut, chaque âme goûtera la mort. Et nous savons que l'espérance de vie varie en fonction des créatures, en fonction des espèces. Hein, les êtres humains vivent moins longtemps, les anges vivent beaucoup plus. Mais même les malaïka, même les plus grands, les muqarrabi, les anges proches d'Allah Azza wa Jal, lorsque sera soufflé de la trompe, qu'on appelle nous la trompette, hein, mais ce n'est pas une trompette, c'est Fissour, lorsque Israfil alayhi salam soufflera dans cette corne, alors tout ce qu'il y a comme espèce vivante, toute créature va mourir. Et lorsqu'il soufflera une seconde fois, toute créature reviendra à la vie. Et dans certains kutub, il est décrit quels sont les premiers malaïka, hein, qui vont revenir à la vie et qui seront les premiers prophètes, les premiers êtres humains. Et parmi les premiers hommes, ce sera le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais il y a un doute, parce il dit que lorsqu'il va être ressuscité, hein, il va voir Moussa alayhi salam qui est déjà près du trône d'Allah. Et donc il ne sait pas est-ce que Moussa alayhi salam, hein, a été ressuscité avant lui ou non. Mais ça nous rappelle que kullu nafsin dha'iqatul maut, ce verset qui est répété plus d'une fois, de le verset chaque âme goûtera à la mort. Et étrange, ce musulman qui lit, hein, qui lit ce verset, qui l'entend, qui le comprend, qui le répète, qui l'écoute dans chaque salat, qui le lit régulièrement dans ses khatm al-Qur'an, cette personne qui est conscient qu'il va mourir et qu'il a donc un rendez-vous avec Allah Azza wa Jal. Parce que la mort pour le mu'min est synonyme de passage dans le monde de l'au-delà, le monde de l'éternité. C'est-à-dire ce monde pour lequel on a été créé, pour retourner auprès d'Allah afin de prendre une décision, afin qu'Allah prenne une décision et nous oriente en fonction des choix qu'on avait fait sur ce dunya. Alors ce mu'min qui, contrairement au kafir, pour lui la mort c'est la fin de la vie, tout simplement. Quand une personne meurt, c'est que voilà, il n'y a plus rien. Hein, le kafir, d'une manière générale, ne croit pas à la vie après la mort. C'est pour ça qu'il essaie de cumuler le maximum, le plaisir de ce dunya. Il essaie de profiter au maximum. Tandis que le mu'min, il sait que la mort n'est qu'un passage entre le monde de ce dunya et le monde du rêve, le monde de l'invisible. Et ajib, ajaban, ce mu'min qui sait qu'il a un rendez-vous avec Allah Azza wa Jal, mais qui ne prépare pas ce rendez-vous avec Allah. Imaginez une personne qui a un entretien très important, une embauche de travail, hein, qui peut consacrer 8 ans, 9 ans d'études, il peut enfin rencontrer, je ne sais pas quel agent, je ne sais pas quoi, qui va lui permettre d'avoir un travail comme il le souhaitait. D'accord ? C'est vraiment la consécration pour lui. On lui donne un rendez-vous, il dit que dans un an exactement, jour pour jour, à telle heure, il y aura cette rencontre, mais il faut préparer tel dossier, il faut réviser telle matière, il y aura un questionnaire, etc., etc. Et la personne vide à rafle, dans l'insouciance. Il mange, il boit, il va en vacances, il fume, il mange à la moustane, il profite de ce dunia, il enjoy, comme on dit, et il ne réfléchit pas une seconde que vraiment il faut préparer ce rendez-vous, parce que ce rendez-vous-là, ça se négocie pas, on ne se fait pas remplacer. Et ce rendez-vous-là, il n'y a la seule règle, c'est la règle qu'Allah Ta'ala va appliquer. La règle, c'est qu'on se présente devant Allah Azza wa Jal seul. On se présente devant notre Tribunal Allah Azza wa Jal seul. Laysa baynahu wa baynallahi tarjuman. Il n'y a pas un ange ni personne qui vient entre une personne et son Créateur lorsqu'arrive ce moment où on se présente devant Allah Azza wa Jal pour les comptes. Donc, se rappelle, mes chers frères, ce verset, même les enfants, ils connaissent, hein, que le nafs al-dha'iqatul maut, mais on a besoin de l'intégrer. On a besoin de vivre ce verset, de prendre conscience que ce dunya, mes chers frères, ce n'est qu'un passage. Et ensuite, Allah Ta'ala rappelle, wa nabluukum. Alors ça, c'est un verset extrêmement intéressant. Wa nabluukum bisharri wal khayri fitna wa ilayna turja'un. Nous vous éprouverons par le mal et par le bien. C'est-à-dire, durant les quelques années qu'on va vivre de ce dunya, Allah Ta'ala éprouve le mu'min, éprouve le croyant. Alors, quand on parle d'épreuve, très souvent, qu'est-ce qu'on entend par une épreuve? Une maladie, un problème, une difficulté. Et nous savons que quand quelqu'un fait preuve de patience, de la difficulté, quelles sont les récompenses? Ça, c'est des choses connues. Mais là, le verset nous intrigue parce qu'il dit « On a bloqué mes charri ». Certes, nous vous éprouverons par le mal. « Wal khayri fitna ». Nous vous éprouverons également par le bien. Alors, comment est-ce qu'Allah Ta'ala peut éprouver une personne par le bien? C'est quand Allah Azza wa Jal accorde des bienfaits. Et ensuite, Allah Ta'ala regarde. لِنَنْظُرَ مَنْ يَشْكُرْ وَمَنْ يَكْفُرْ وَمَنْ يَصْبِرْ وَمَنْ يَقْنَطْ. Comme dit Ibn Kathir, rahimahullah, Allah Ta'ala peut éprouver une personne également par des bienfaits, par l'argent, par les biens, par, alhamdulillah, une certaine présence, une certaine aisance dans la société, une reconnaissance de la part des gens. Ce sont là des bienfaits qu'Allah accorde à qui il veut, quand il veut, de la manière qu'il veut, et en fonction de la personne. Et Allah Ta'ala attend de la personne un retour positif. Allah Ta'ala attend de la personne qu'il soit reconnaissant et qu'il utilise le bienfait dans l'obéissance d'Allah. C'est-à-dire, Allah Ta'ala est juste. Allah est l'adl et hakim. Quand Allah Ta'ala accorde, hadith qu'on avait déjà cité au début du mois de Ramadan, il y a des gens pour lesquels Allah Ta'ala décrétait la pauvreté. Parce qu'Allah Ta'ala savait, parce qu'on avait dit qu'Allah il sait, qu'est-ce qu'on avait dit une fois? Ma lam yakun law kana kayfa yakun. Allah connaît le futur, bien sûr, mais Allah connaît également le conditionnel négatif. Si ça aurait été, comment les choses se seraient déroulées? Ce qu'Allah n'a pas prédestiné, s'il l'avait prédestiné, comment auraient été les choses? Et donc ce hadith montre qu'Allah a décrété que pour certaines personnes, il vivra dans des conditions difficiles, il n'y aura pas l'aisance. Parce qu'Allah sait pertinemment que par rapport à la personnalité de telle personne, s'ils avaient eu la richesse, ils auraient fait telle erreur. Alors les personnes-là peuvent faire ce qu'ils veulent pour devenir riches, ils ne deviendront jamais riches. Et s'ils le devenaient, Allah savait qu'ils seraient tombés dans tel péché. Donc pour leur bien, Allah Ta'ala les garde de cette situation. Et la justice d'Allah, c'est quoi? C'est que quand une personne était privée de ce dunya, il obtiendra beaucoup plus dans l'au-delà. Et il n'aura quasiment aucun compte à rendre, sachant que la personne aura vécu dans des situations très justes, voire difficiles. Et pour certaines personnes, Allah Ta'ala a prédestiné l'aisance. Parce qu'Allah Ta'ala sait que si cette personne n'avait pas eu l'aisance, quelles auraient été ses tentations? La personne aurait pu faire des péchés. Et la justice d'Allah, c'est quoi? C'est le jour des comptes pour chaque bienfait qu'Allah Ta'ala a accordé à une personne. Il y aura des comptes. Pour chaque bienfait. Vous vous rappelez l'histoire également? C'était Ibn Mas'ud, si je ne me trompe pas, ou Abdullah, oui, Ibn Mas'ud même, Wallahu a'lam, si je ne me trompe pas, Abdullah ibn Mas'ud, radiallahu anhu, il va passer à table. Hein, la personne lui amène un bol de nourriture, et Ibn Mas'ud regarde ce bol de nourriture, réfléchit, et puis le délaisse. Il dit qu'il y a parmi les compagnons certains qui n'ont pas eu un bienfait de ce dunya. Ils ont tout laissé pour l'au-delà. Et il a parlé du cas de Moussa bin Umair, avec, alhamdoulilah, les sacrifices qu'il a fait pour devenir musulman, et comment il a vécu dans des situations tellement difficiles, l'extrême pauvreté. Alors que c'était l'homme, le jeune homme, la référence, le jeune homme le plus riche de Médine, celui qui, lorsqu'il passait dans une ruelle, on savait que Moussa bin Umair était passé par là, par rapport au parfum qui restait dans la rue
longtemps après son passage. Le jeune homme, le plus riche, un des plus riches de Médine, lorsqu'il a accepté l'islam, on connaît l'histoire, il a été chassé par ses parents, il est passé de l'extrême richesse à l'extrême pauvreté. Avant de mourir, il n'avait même pas de quoi se couvrir. Il n'avait pas un kafan, des vêtements suffisants pour couvrir son corps. Donc Ibn Mas'ud, lorsqu'il voit ce bol de nourriture, il se dit que là, moi, Ibn Mas'ud, pourtant, qui était Ibn Mas'ud? Quel sahaba? Allah Akbar, on ne parle pas d'un pécheur qui regrette, là Wallah, on parle d'un compagnon du prophète qui regarde ce bol de nourriture et dit que là moi je vais profiter de ce bienfait alors que mes compagnons, comme Moussa ibn Umayr, c'était mon ami, hein, il a tout donné pour Allah, il n'a pas eu rien comme bienfait depuis qu'il est devenu musulman, il n'a pas eu aucun bienfait de ce dunya, il est parti, Allah Ta'ala a gardé tout pour lui dans le delà, comment moi je peux manger et profiter de ce dunya, et il a abandonné, il a délaissé la nourriture. Donc aux musulmans, rappel de la part d'Allah que chaque âme va goûter à la mort et Allah peut éprouver par les bienfaits, par bien sûr les difficultés, et quand Allah Ta'ala éprouve par les difficultés, Allah attend du musulman la patience et le ihtisab, la conviction que pour chaque épreuve il y a une délivrance, il y a une récompense, et quand Allah accorde des bienfaits, ça peut être également une fitna, une source de tentation, et Allah Ta'ala attend de la personne que la personne soit reconnaissant, chakir, que la personne ne fasse pas preuve d'ingratitude et soit reconnaissant et qu'il utilise les bienfaits dans l'obéissance. Et Allah clôture ce verset wa ilayna turja'un, et n'oubliez pas que c'est auprès de nous que vous serez ramenés. Fanujazikum bi'amalikum, comme dit Ibn Kathir, certes on retourne auprès d'Allah, mais c'est pas tout que de retourner auprès d'Allah. C'est pas qu'on retourne auprès d'Allah dans le paradis direct, c'est on retourne auprès d'Allah et Allah Ta'ala nous jugera pour les actions qu'on a accomplies. Puis si on passe à quelques versets après, verset qu'on ne va pas développer, on aura l'occasion encore de le tarawih, ce verset qui nous rappelle l'étape du mizan, ça fait partie des étapes de l'au-delà. وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَ, lorsque les balances seront placées pour que chaque personne puisse voir ses actions déposées dans la balance. Et ce jour-là, فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا, personne ne sera opprimé. Dans ce dunya, vous pouvez aller au tribunal ici, là-bas, plus tribunal de la haie, plus tribunal du droit de l'homme, je ne sais pas quoi. Il y a toujours des injustices. Parce que la justice de l'homme n'est jamais parfaite. Et nous voyons que ce soit des cas mineurs ou des cas extrêmement importants sur le plan international, il y a toujours un déséquilibre dans les décisions. On sent qu'il y en a qui sont favorisés, d'autres défavorisés. Mais le jour des comptes, Allah Ta'ala, sa justice, elle est unique. La tuzlamu fala tuzlamu nafsun shay'a, et concernant les actions, même si c'était wa in kana mithqala habatin min khardalin atayna biha, même si quelqu'un avait accompli l'équivalent d'une graine de moutarde d'action, Allah Ta'ala ramènera l'action pour que l'action soit pesée dans la balance. Mais quand on dit une graine de moutarde d'action, que ce soit une bonne action, mais également une mauvaise action. C'est-à-dire rien ne passe au travers les filtres des katabas, des anges qui écrivent les actions. Donc, à nous de méditer sur le verset qui parle de la mort et de méditer également sur le verset qui parle de l'installation de la balance lorsque chaque mu'min devra venir près de la balance, voir ses actions posées. Et en fonction de ce résultat, il va savoir quelle sera sa destination. Qu'Allah nous accepte, mes chers frères. Nous avons fait de comprendre, hein, il y a un verset qu'on avait développé il y a 2 ans, 2010, que notre Hafez Yamin a lu, l'histoire de Ayyub alayhi salam. Ça, Inch'Allah, un jour, on aura l'occasion de développer ce prophète qui était le plus éprouvé, 18 ans de maladie. Ayyub alayhi salam a été malade pendant 18 ans. Et Ayyub alayhi salam avait tous les bienfaits. Du jour au lendemain, il a tout perdu. Mais ce serait magnifique un jour d'approfondir cette histoire, comment il reconnaît que oh Allah, tu m'as tout accordé. Et du jour au lendemain, il perd tout, mais il sait pertinemment que c'est une épreuve de la part d'Allah. Il a fait preuve d'une patience remarquable, 18 années de patience où personne ne voulait plus le fréquenter. Il était tellement malade qu'il y avait des vers qui sortaient, hein, de sa peau mubarak, une maladie extraordinaire, exceptionnelle. Et garder confiance en Allah, et un jour Allah Ta'ala a décidé de lui accorder la santé. Et ça, c'est un message d'espoir. En plus de la leçon de patience, c'est également un message d'espoir pour une personne qui est malade. Le prophète alayhi salatu wasalam dit que Allah n'a pas envoyé une maladie sur terre sans qu'il n'y ait le shifa, qu'il n'y ait le remède. D'accord? Donc chaque personne, si on a autour de nous des gens éprouvés, quelle que soit la maladie, ne jamais désespérer. Ne jamais se dire, il n'y a pas le terme maladie incurable. Incurable, c'est français ça. C'est pas religieux, c'est pas islamique. Il n'y a pas une personne qui est atteinte d'une maladie incurable. Même aujourd'hui, vous voyez, ils sont en train de peu à peu de découvrir un vaccin contre le sida. Hein, c'est presque fait. Peut-être qu'en 2013, ce sera une maladie qui se soigne comme le cancer se soigne plus ou moins. Inch'Allah. Parce que Allah Ta'ala, pour toute maladie qui est descendue, Allah Ta'ala a créé un remède. Donc, message d'espoir à travers l'histoire de Ayyub al-Islam, à travers l'histoire de chaque prophète, il y a un espoir. Il y a une leçon d'espoir pour un mu'min. C'est pour ça qu'on doit lire l'histoire des prophètes, on doit l'enseigner à nos enfants afin qu'ils prennent ces anbiya alayhimu salatu wassalam comme modèle. Que leur modèle ne soit pas des footballeurs, ne soit pas des chanteurs, des artistes, mais ce soit les anbiya alayhimu salatu wassalam, que leur modèle soit les compagnons, les sahaba ridwanullahi alayhim ajma'in et les hommes pieux qui ont fait l'histoire de notre religion. Nous rappelons également, aujourd'hui c'est quoi, vendredi, n'oubliez pas le rendez-vous dimanche, tous les dimanches matin, 10h15, à la masjid de Saint-Clotilde, comme toutes les masjids de Saint-Denis, il y a un intervenant, un alim qui vient, qui fait un programme pour hommes et dames. On rappelle nos épouses, nos mères, nos soeurs, nos nièces, nos filles, nos petites filles, de venir à ce programme, surtout qu'on est en train de préparer la dernière décade. D'ailleurs, la semaine prochaine, à cette heure-ci, on est déjà dans la dernière décade, oui non. Là, on est le 14e, 7 et 4, 21. Donc, on sera déjà la dernière décade. La dernière décade ne se prépare pas dans la dernière décade. La dernière décade se prépare bien avant. Donc, le discours de ce dimanche, Inch'Allah, j'espère aussi qu'il aura une parenthèse à propos de la manière que le mu'min doit préparer la dernière décade. Si au début de Ramadan, on fait beaucoup plus d'efforts qu'en temps normal, d'accord, si on passe en troisième vitesse, arrivé dernière décade, là, on est à fond. On est à fond parce que c'est le moment où il faut donner le meilleur de soi. Le prophète alayhi salatu wassalam ne dormait pas pendant les nuits de la dernière décade. Il passait l'intégralité de ses nuits dans le ibadah, chose qu'il ne faisait pas pendant les 20 premiers jours de Ramadan. On aura l'occasion de développer ce point, inshallah. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun ala al-mursalin wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.